On pourrait mettre en exergue de cet évangile de la Samaritaine ce verset d'un psaume de David qui dit « Comme un cerf altéré languit après les eaux vives, ainsi mon âme te désire, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort, du Dieu vivant. » Ayant longtemps vécu et abreuvé son âme de tout ce qu'on peut rechercher dans le monde, le roi David a senti soudain qu'en lui une autre soif, une soif spirituelle, pourrait-on dire, n'était point abreuvée, et que rien dans l'univers matériel n'était susceptible de la combler. Il sentait son être languir comme une terre déserte sans eau. C'est encore un autre psaume de David. Le corps vient de la terre, et sa nourriture qui le vivifie également. Il y a donc adéquation. Mais l'âme souffre. Elle n'est pas alimentée par une nourriture conforme à sa nature et se sent dans ce monde comme étrangère. L'âme vivante, l'âme humaine, pardon, est vivante et assoiffée de vie, et rien ne peut l'abreuver sinon la vie essentielle qui ne se trouve qu'en Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant, gémit le roi David, ressentant en lui une soif inexprimable que nulle source en ce monde ne peut rassasier. Si nous avons nous-mêmes expérimenté cette soif spirituelle et insatiable comme celle de David, alors l'évangile de la Samaritaine peut se révéler dans toute sa splendeur, dans tout son sens. Jésus donc arrive dans une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. La Samarie, c'est cette grande province qui s'étend depuis la Galilée au nord jusqu'à la Judée, au sud. C'est l'ancien royaume d'Israël qui avait fait sécession du royaume de Juda après la mort du roi Salomon et qui avait finalement été envahi et réduit par les Assyriens, ce puissant empire venu de l'Est. Les Assyriens avaient pratiqué une politique de transfert et de mélange de populations d'origines diverses, si bien que la tradition mosaïque s'était trouvée mêlée avec d'autres traditions idolâtres venant un peu de toutes les régions du Proche-Orient. Et les Juifs qui étaient les descendants du royaume de Juda considéraient les déviations religieuses des Samaritains avec beaucoup de mépris, au point que tout dialogue entre les deux ethnies, les deux peuples, ethnie c'est pas juste de dire, les deux peuples étaient totalement interrompus. Là se trouvait donc le puits de Jacob, et Jésus, fatigué par la marche, se tenait près du puits. C'était environ la sixième heure, nous dit l'évangéliste. La sixième heure, c'est l'heure de midi. C'est le moment de la plus grande chaleur et le Seigneur, fatigué, assoiffé par la marche qu'il avait faite sans doute depuis tôt le matin sur un chemin malaisé et aride. Une femme vint alors pour puiser l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ce n'est pas seulement la demande d'un homme assoiffé à une femme qui vient puiser de l'eau, mais il faut entendre là une prière du Créateur à sa créature. « Donne-moi à boire ». Ces paroles ne sont pas seulement adressées à cette femme de Samarie, mais à toutes les générations humaines jusqu'à la fin des temps. « Donne-moi à boire », dit-il, « à chacune, à chacun de nous. » Il parle ainsi, non parce qu'il a soif d'eau seulement, mais parce qu'il a soif de notre bonne volonté, de notre désir et aussi de notre amour. Il nous le demande avec grande humilité. Ses disciples étaient partis en ville pour acheter de quoi manger. Et heureusement, parce que si les disciples étaient présents, ils auraient pris l'eau eux-mêmes et cette femme n'aurait pas été mentionné. Mais la Providence a voulu ainsi pour nous enseigner que les barrières entre les peuples hostiles et les sexes opposés ne sont que des constructions humaines artificielles et ne sont pas visibles aux yeux du Seigneur. Nos barrières ne montent pas jusqu'au ciel, disait un père de l'Église. La femme samaritaine donc lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une samaritaine ?» Cette femme devait penser qu'un homme devait haïr non seulement un peuple ennemi, mais aussi tout individu faisant partie de ce peuple. Dans l'épisode du bon samaritain, le Seigneur avait indiqué le contraire, en soulignant que quand tout homme existe une part de bonté, quelle que soit sa croyance et ses origines. Et le dialogue se poursuit. Jésus lui répond, « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le don de Dieu peut être compris dans un sens matériel ou est dans un sens spirituel. Sous l'angle matériel, le don de Dieu peut être compris comme tout ce que Dieu a créé dans sa bonté et donné à l'homme pour son profit et son usage. Sous l'angle spirituel, le don de Dieu, c'est quoi le don de Dieu? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui se donne pour la vie du monde. Femme, pourrait-on dire en parodiant Jésus, si tu avais su quel don précieux Dieu a fait aux Juifs, aux Samaritains et à tous les autres peuples sans exception, ton âme aurait tressailli, tu aurais pleuré de joie et n'aurais pas osé songer à la haine mutuelle entre Juifs et Samaritains. Et si on t'avait révélé tous les mystères de celui qui parle avec toi et que tu considères, d'après son aspect, comme un homme ordinaire et d'après son langage, comme un juif, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Sous cette expression d'eau vive, le Seigneur considère la force bienfaisante et vivifiante du Saint-Esprit qu'il a promise à ses disciples et à tous ceux qui croiront en lui. L'évangile de Jean nous rapporte un événement qui sera lu le jour de la Pentecôte, où le Seigneur dit « Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir tous ceux qui avaient cru en lui. Et sans se douter, bien sûr, de cela, la femme lui répondit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où l'as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Le Seigneur donnait à cette femme l'impression d'être un peu impuissant. L'eau vive, dans le langage commun, ça désignait l'eau de source ou l'eau qu'on trouve au fond d'un puits, à l'inverse de l'eau de pluie qu'on stockait dans les citernes. Alors une idée lui vient, cette femme, serais-tu plus grand que notre père Jacob? C'est-à-dire, serais-tu capable de créer une autre source comme celle-ci? Ce puits qui existe là depuis toujours, peut dire, était à l'époque très important et il permettait l'alimentation en eau de toute la vallée, de toute la ville. Es-tu capable d'accomplir quelque chose d'encore plus grand? Elle est fière de cet ancêtre, Jacob, et elle se moque un peu de Jésus. Mais celui-ci passe outre tout son désir, c'est de sauver l'âme de cette femme. Alors Jésus lui répond, « Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante en vie éternelle. » Alors la femme lui dit, « Alors Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici pour puiser. » On voit bien qu'un malentendu s'installe. L'eau vive évoquée par le Seigneur est un bienfait vivifiant de Dieu qui nourrit et abreuve l'âme, l'introduisant dans la vie éternelle. Alors que pour la femme, il s'agit d'une eau visible, donnée pour apaiser la soif physique, la soif du corps. Peut-être s'imagine-t-elle Jésus comme un magicien, capable de faire jaillir une source d'eau comme par enchantement. Afin de faire cesser de telles pensées aberrantes, Jésus change brusquement le cours du dialogue. Et c'est là qu'il lui dit, « Va, appelle ton mari. » La femme est prise de court, elle répond, « Mais j'ai pas de mari. » Jésus insiste, « Tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, mais tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu dis vrai. La femme est frappée par l'omniscience, par le discernement du Seigneur, mais la révélation de sa conduite secrète et transgressive, qui explique sans doute qu'elle vienne faire sa provision d'eau en solitaire à un moment si particulier, en plein midi. L'affirmation que celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, cela agit sur elle comme un coup de tonnerre. L'entretien, il faut bien comprendre, l'entretien entre le Seigneur et la Samaritaine, c'est un entretien entre Dieu qui est fidèle et l'âme humaine qui ne l'est pas. Cet entretien nous concerne aussi. C'est l'entretien entre l'époux céleste et sa fiancée que nous sommes, chacun d'entre nous. Et on arrive là à une question essentielle. En effet, celui qui est marié avec le monde connaîtra le destin du monde et boira jour et nuit une eau qui le laissera de plus en plus assoiffé. Ce n'est que si tu connais le Christ Seigneur comme ton fiancé légitime, et si tu l'épouses avec foi et amour, que tu boiras l'eau vive qui apaise la soif et conduit vers le royaume céleste et la vie éternelle. Alors la femme lui répond, « Je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Elle passe tout de suite au discours religieux, ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Alors Jésus lui répond, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ayant deviné le passé de la Samaritaine, le Seigneur fait vibrer les cordes sensibles dans son âme de sorte qu'elle commence à s'éveiller à sa propre spiritualité alors qu'elle restait jusque-là cantonnée dans sa raison matérielle très terre à terre. D'abord, elle reconnaît le Seigneur comme prophète. Puis, elle ose lui poser une question qui était très actuelle pour l'époque. Où faut-il adorer Dieu? Qu'est-ce qui convient le mieux à Dieu? Est-ce la montagne de Samarie ou Jérusalem? Il y avait des polémiques sans fin entre les uns et les autres à ce sujet. Le Seigneur ne répond pas à cette question directement, mais il continue à éveiller la femme et à élever son âme de plus en plus haut. Crois-moi, femme, c'est-à-dire écoute-moi, et laisse ceux qui te parlent d'adoration ici ou là. L'heure vient, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, qu'il convient d'adorer le Père. Voilà une nouvelle conception pour cette femme. C'est le Père qu'il faut adorer plutôt que Dieu. Et avec cette nouvelle conception de Dieu comme Père, viendra aussi une nouvelle adoration. Le fait d'adorer le Père ne sera plus lié au lieu. L'heure vient, dit-il, maintenant. Les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit. Ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Quand, à la lumière du jour nouveau qu'est venu apporter le Seigneur, les hommes reconnaîtront Dieu comme Père, ils l'adoreront en tant que fils et non en tant qu'esclave. Ils ne l'adoreront plus avec des paroles mortes et des sacrifices morts, mais en esprit et en vérité. Le monde ancien servait Dieu selon des formalités légalistes, apportant des boucs, des taureaux, mais d'autres animaux, en offrande, célébrant le sabbat, devenant même idolâtre du sabbat, comme on le voit souvent, et accomplissant des purifications et des lavements, mais en ayant oublié la miséricorde et l'amour. On lisait toujours les paroles du psaume 50 qu'on a lu tout à l'heure, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas le cœur contrit et humilié. » Mais ces paroles, sans doute, n'étaient plus vraiment comprises et en tout cas pas mises en œuvre. Dorénavant, Dieu sera célébré en esprit et en vérité, car le Seigneur lui-même est descendu parmi les hommes pour montrer l'exemple d'un tel service et d'une telle adoration. Alors, la femme va passer sur le registre du Messie. « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Quand il viendra, il nous dévoilera tout. Et Jésus lui dit, c'est moi qui te parle, celui qui te parle. Puis là-dessus arrivent les disciples qui posent la question de que... Et la femme laisse alors sa cruche et part à la ville. Provoquée dans le sens spirituel des paroles du Seigneur, cette femme se met soudain à parler du Messie dont tout le monde en ce temps attendait la venue, mais comme d'un événement flou, distant, imprécis. Et voilà que le Seigneur lui révèle « C'est moi, celui qui te parle ». La femme reste sans voix. Elle laisse sa cruche et s'enfuit à la ville annoncer ce qu'elle vient d'apprendre. Cet homme étrange, rencontré près du puits de Jacob, ne serait-il pas le Christ ? Elle n'ose l'affirmer, bien qu'au fond d'elle-même, elle le sache très bien. Par cette nouvelle étrange et par une certaine modestie, cette femme qui jusque-là fuyait ses semblables bouleversa tous les habitants de Sichar qui sortirent de la ville et allèrent vers le Seigneur. Pendant ce temps, Jésus déclare aux disciples qui ont apporté des victuailles « J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Lui parlait de nourriture spirituelle et les disciples de nourriture terrestre. Ainsi se répète la scène vécue peu avant avec la femme quand il parlait d'une eau spirituelle et elle d'une eau de source. Le Christ n'a pas donné l'eau vive seulement aux Samaritains et aux Juifs, il l'a donnée. Il continue de la donner à tous et à quiconque ressent une soif spirituelle dans le désert de la vie. Nous l'entendrons bientôt proclamer « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » À celui-là, il donnera l'eau vive, boisson divine, qui renouvelle et régénère. C'est le Saint-Esprit qui fait sortir de ce monde brûlant d'ici-bas pour conduire au jardin du paradis. Gloire au Seigneur Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, Trinité, unique et indissociable, pour les siècles des siècles. Amen.